Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Et bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, nous allons voir un peu un livre pour la jeunesse, mais pas tant que ça, si on y réfléchit bien. Alors, ce livre, c'est Les Robistiques de Claude Sénac. Alors, Claude Sénac, que j'ai rencontré il y a quand même quelques années, je crois qu'on a même fait une émission de télévision sur Aki TV ensemble, mais comme je dis, ça fait quelques années. Alors, Claude Sénac est née le 16 novembre 1924 à Paris. Elle est morte le 17 septembre 2017 à Sarlat, à 92 ans. Alors, elle est d'origine périgourdine. Elle est une écrivaine et de littérature jeunesse, le nom d'emprunt Sénac. Alors Sénac, c'est le nom d'une commune des bords de la Dordogne située près de la Bastide de Dôme. Alors elle va commencer sa carrière en écrivant des nouvelles comme pour les quotidiens, La Dépêche du Midi, Sud-Ouest et Castel Carabignat qui est publié en 1960 aux éditions Magnard. Alors il y en aura d'autres évidemment. Il y a Quatre pattes dans l'aventure qui est peut-être un de ses plus connus avec L'inconnu de Mimosette Plage. Il va y avoir Sidonie et les 40 bisons. Le robot sauvage, Les cavernes de la rivière rouge, j'en passe, il va y avoir La révolution des croquants, Les robustiques dont on va parler, La planète du bonheur, Le tonnerre de Mandrazès. Alors Mandrazès est un quartier de Sarlat où il y a un stade de rugby. Alors ce 20 ans, La rivière rouge, Les sorciers de la rivière rouge et La révolution des croquants, et puis Contes et légendes évidemment de l'an 1000, et nous ne sommes pas encore très loin de l'an 1000. Donc ce livre, les robustiques, il y a un sous-titre, ont-ils peur du fantôme qui hante le château du terrible point de fer. Alors, et là, il y a bien sûr des illustrations, et les illustrations de Sourine, et ce livre est paru aux éditions Milan en 1990. Voilà, alors il y a quand même une présentation que je vais vous donner. Alors tout d'abord une présentation des quatre chapitres de ce livre de Claude Sénac. Alors, j'aimerais vous être présenté par chacun de mes robistiques. Ils me verraient sans doute d'une façon différente. Alors Joseph se pencherait surtout sur l'écrivain qui aurait 100 ans en 2024 sur son petit bureau dans une maison paisible en plein cœur du Périgord noir, sur son travail quotidien et son obstination à trouver le mot juste et les aventures qui vous distrairont. 126, alors c'est un autre chapitre, sourirait de mes lacunes scientifiques profondes comme les oubliés de la forteresse qu'il restaure. Mais il serait très indulgent, car c'est tout de même grâce à moi qu'il a pu rencontrer Hurlu, fantôme sorti tout droit de ma folle imagination. Alors ça, c'est à lire. Hein. Voilà, alors c'est un peu spécial. Alors Victor parlerait de moi avec un entrain, un certain détachement. Il m'aurait rencontré dans un instant très bref sur le terrain de rugby. Il m'a inspiré sa touchante histoire, mais il m'aurait presque oublié dans sa nostalgie du ballon ovale. Évidemment, Sarlat, c'est le rugby. Il y a un match de football, il y a un stade de football également. Alors Pélagie vous raconterait comment j'ai frémi avec elle sur le chemin de son miroir. Elle a certainement compris combien j'aimais à vagabonder dans les contrées imaginaires, tout en ayant comme elle mes deux pantoufles sur terre. Alors, Pélagie, on a toujours affaire à des robots, et là, c'est une robot, je ne sais pas si le féminin existe bien. Voilà, et je n'aurais plus rien à dire, j'imagine écrit, je travaille beaucoup, et si mes personnages torsent l'entrée de votre cœur et restent vivants dans votre mémoire, je suis déjà au paradis. Alors bien sûr, il y a Sourine, alors il y a évidemment un petit chapitre concernant l'illustrateur. Alors voilà ce qu'elle nous dit. Sourine, malgré son nom à consonance bulgaro-slovaque, Sourine est un Français à part entière, quoi qu'il se dise dédenu le part et habitant le cosmos. Je suis l'homme aux mille visages, c'est une phrase qu'on entend souvent dans sa bouche. Peintre le lundi et le mercredi, il est intarissable sur les délicats glacis d'étoiles de Vermeer et Van Eyck, qu'il tente d'imiter de ses pauvres mains malhabiles. Violonneux le mardi et le samedi, se repaît d'improvisation à faire pâlir d'envie tous les crin-crins du quartier. Dessinateur le jeudi et le dimanche, il essaie de se souvenir de ses brefs passages aux Beaux-Arts de Versailles, Paris et Aix-en-Provence. quand même un beau parcours. Où il passait le plus clair de son temps à copier sur son voisin. Si le voisin est doué, ça peut être bon. Alors, quant au vendredi, le mystère reste entier. Se balade-t-il dans les étoiles sur son scooter intersidéral, comme il le prétend, ou se prend-il pour un Robinson galactique, comme on le murmure dans son entourage? Le mercredi, je suis sans fonction, dit-il. Et c'est donc à quelques mercredis que l'on doit ces illustrations pour le présent ouvrage, une chance qu'il y ait 7 jours dans la semaine. Alors, bien sûr, il y a de très belles illustrations pour chaque chapitre. Alors, on va laisser preuve de faire, puis on va rencontrer des gens du terrain de rugby. Alors, bien sûr, il y a un match, bien sûr, à lever de rideau, il y a toujours un match avec les poussins, si je peux dire. Voici ce que vous nous dites de deux quand même anciens joueurs rugbymen. Rugbymen qui viennent là parce qu'ils sont quand même beaucoup trop âgés encore pour jouer. Alors tout est changé, Bogona touche avec ses services d'élibus, ses spectateurs ne viennent qu'au dernier moment. Pour les gamins qui jouent enlever des rideaux, ils n'ont jamais de pique. Ils sont là pour apprendre, c'est de loin le plus important. Tout de même, s'obstine à touche. Lorsque nous venions en voiture, il fallait trouver une place sur le parking. Il y avait du monde pour le premier match. Écoute-moi, vieux frère, dit Médé, patiemment. Il faut te faire une raison. C'est vrai que le monde a changé. Heureusement pour nous, d'ailleurs, sans le progrès de la médecine, nous serions out depuis longtemps. Je me demande parfois s'il ne vaudrait pas mieux. Et moi, je ne demande qu'une chose, c'est que tu cesses de râler. Voilà, alors, il va quand même continuer un peu. Alors, une voix conciliante, c'est pour notre rugby, soit resté, c'est humain. Il paraît qu'un ordinateur peut prévoir toutes les phases du jeu. On aurait bien fait de nous remplacer par des robots. Il tendit une boîte de pastilles, touche servie à Marmona, que ce serait la fin de tout. Par bonheur, reprit son copain, les déciseurs de distraction ont fini par se rendre compte qu'il fallait conserver quelques kilos de fantaisie, sinon la vie serait trop triste. Il ajouta un sourire avec notre ballon ovale, nous ne manquons pas d'imprévus, et puis tu vois, les gens arrivent. Alors par rédibus entier, le ciel desservait en effet une foule de spectateurs devant l'entrée du petit stade. Alors, bien sûr, il va y avoir les supporters, mais il y a quand même un petit problème. Il y a quand même un petit problème dans tout cela, c'est que la vedette du stade Sarladé, eh bien ma foi, il a une crise d'appendicite. Et comment faire pour jouer? Alors on peut demander à l'équipe adverse, bien sûr, de prêter aux joueurs, mais je pense que ça n'irait peut-être pas très bien. Et il va y avoir le président qui va venir et qui va arriver en renfort. Et qui est un ancien joueur, il va trouver bien sûr la solution, c'est-à-dire qu'il a un chauffeur qui ressemble un peu bien sûr à notre ami qui n'est plus présent. Alors ils vont l'habiller et il va jouer et bien sûr ils vont lui demander laisser au moins un essai aux adversaires. Alors Donc voilà l'affaire, ce robot bien sûr va remplacer le joueur vedette, et mais tout a une fin, ils vont bien sûr gagner le match. Alors le président bien sûr avec sa belle voiture, descendez Victor, dit le président, allez faire un brin de toilette et reprenez votre service. À cause de cet incident, la poussière n'a pas été faite, mais soyez gentil, faites-lui passer sa tenue. Alors Victor remercia avec déférence et rassembla ses vêtements sur la pliure de son bras gauche. Maître, demanda-t-il de son ton le plus solennel, quels sont vos ordres pour ce soir? Dois-je préparer la petite table ou bien dresser le grand couvert? Je ne rentre pas, dit le président, et souriant à ses deux hôtes, j'invite ces messieurs à la troisième mi-temps. Le domestique s'inclina sans répondre et les portières se refermèrent, la voiture s'éloignant, laissant sur le sable impeccable la double trace de ses pneus. Le vieux mêlé se retourna, Victor restait sur le perron immobile dans son short raidi, sa tunique bleue au creux de son bras, pauvre diable dit mêlé, il aurait fait un bon demi de mêlé, évidemment. Donc ce match de rugby, donc c'est bien terminé, et évidemment il va y avoir une troisième mi-temps comme il se doit. Alors, et puis là, alors donc, dernier, un dernier chapitre qui s'intitule Pélagie. Alors Pélagie, comme je disais tout à l'heure, c'est un robot ou une robote, je ne sais pas comment l'on dit. Alors, en l'an 104e de couverture, il y a un petit texte. En l'an 2024, les robots sont intelligents, ils savent servir leur maître, mais aussi jouer avec des fantômes, pratiquer un sport collectif, passer en cas d'urgence de l'autre côté du miroir. Ils animent pour nous ces quatre récits fantastiques, très différents en apparence, reliés cependant par une idée très réconfortante, l'amour, quoi qu'il advienne, n'est pas prêt de finir. Évidemment, on a tous été plus ou moins amoureux dans sa vie. Alors, donc Pélagie, c'est une robote qui se retrouve toute seule dans une grande maison. Donc, et puis il y a un chien. Il y a un chien, alors Lévis, qui s'appelle Lévis. Alors, Lévis allongea son museau sur ses pattes et poussa un profond soupir. Il va faire un tour, suggérant Pélagie. Et oui, ce qu'il y a des yeux, et ben, il y a plein de mâchoires. Pélagie assiste à sa coiffe de dentelle et tira sur son tablier. Je ne peux pas t'accompagner, tu devrais pourtant le comprendre. Ma puce crée l'humidité. Et ajouta d'un ton sagace, si je tombais en panne, qui te donnerait à manger? Son regard parcourut la pièce où le jour baissait doucement. Tout était en ordre parfait, pas la moindre poussière, sur le bureau du maître qui, évidemment, a disparu. Alors s'il revenait, commença la robote. Le chien gronda, l'œil entrouvert, oui, des Pélagie, je sais bien, tu n'y crois pas. Mais tout de même, s'il revenait, le chien changea de place pour briser la conversation, il bomba son échine, creusa son ventre et se gratta avec une sorte de furie. Tu perds tes poils, remarqua Pélagie. Et oui, se gratta de plus belle, faisant voler de larges soies. Il hésita, bâilla encore, la langue roulée en pistil, puis il fit le tour sur lui-même, comme s'il allait se recoucher, mais cela ne le tentait pas, il renifla un petit coup, se dirigea lentement vers la fenêtre grande ouverte et posa ses pattes sur la pluie et se pencha sur le jardin. Alors le jardin, c'est un pauvre jardin, alors des roses à l'abandon, traînées dans l'herbe folle, d'énormes pissenlits fleurissaient les allées, par-dessus le mur de l'enclos, des chaînes séculaires lançaient des pousses toutes neuves. Alors Lewis dilata ses narines, songea au sentier noir du mus où il se perdait dans la forêt. C'était l'heure idéale pour une courte promenade, mais pas tout seul, non, quand même pas tout seul, il n'est pas si courageux que ça. Alors il fait frisquer, constata Pélagie, tu vois, je vais nous faire une flambée. Alors Lewis resta sans réaction, autrefois il avait aimé les longues soirées devant l'âtre. Le maître lisait en fumant sa pipe, la tête du setter posée sur ses genoux, le souvenir de sa main caressante. Tandis que le chien rêvassait, le cœur serré par la tristesse, Pélagie marcha vers la cheminée, ses gros chaussons de feutre glissaient sur le plancher ciré où les meubles se reflétaient. Le bout de chausson droit commençait à s'user, il faudra quand même peut-être le raccommoder. Alors, petite tâche à perspective que Pélagie se réservait pour le jour maintenant très proche où il n'aurait plus le moindre travail, dès qu'elle aurait fini le pull ouvert que tricoté avec des restants de pelote. Malgré ses raies de couleurs différentes, l'ouvrage était très réussi. Chaud, léger, gonflé de torsade, au point irlandais, comme le maître les aimait. Avec sa cape brune et son pantalon, feuilles mortes, c'était sa tenue préférée pour les randonnées en forêt, et justement le soir de sa disparition. Voilà. Alors, évidemment, le maître a disparu, la robot mais continue quand même son travail, il y a le chien. Alors, Pélagie s'arrêta auprès du grand fauteuil de cuir dont elle tapota les coussins râpés. Son guéridon bas d'un pipe de bruyère reposé dans un cendrier. Un pot de marbre blanc contenait du tabac en vrac qui voisinait avec un livre que le maître lisait souvent. Alors, bien sûr, le maître de la robote et du chien a disparu. Alors, savoir s'ils vont le retrouver et comment ils vont le retrouver, mais ça, je vous le laisse, bien sûr, comme l'on dit, deviner. Donc, à lire ce livre, donc Les Robustiques de Claude Sénac, en sous-titre, ont-ils peur du fantôme, qui a un château du terrible point de fer dont on reparlera peut-être un jour. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, ensoleillée et pas trop fraîche. Au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.